Il y aurait bien un recours, la paix. Un bizarre accès de réflexion des peuples, se disant tout à coup, est-il absolument indispensable que nous menions cette affaire-là jusqu'à son dernier terme ? La guerre n'est pas, ou n'est plus, ce que nous imaginions qu'elle était. Puisqu'il est évident qu'aucun de nous n'usera l'adversaire sans s'user à peu près autant, et puisque le propre de la guerre nouvelle semble être qu'elle n'a pas en elle-même de raison de finir, ne pourrions-nous pas chercher une autre solution ? La plus mauvaise serait encore, pour tout le monde, un bénéfice. C'était raisonnable, mais c'était impossible. Chacun des adversaires y pensait à personne, mais pour se donner aussitôt l'ordre de ne plus y penser. La guerre avait déjà beaucoup trop coûté en hommes et en richesses. Seule la victoire, même sur des ruines, était capable, par sa valeur non chiffrable, de vous apporter un semblant de compensation. Et puis, chaque peuple, par la voix de ses dirigeants, avait trop de fois juré qu'il se battrait jusqu'à l'écrasement de l'ennemi. Si, après s'être tué mutuellement tant de centaines de milliers d'hommes, ravagé tant de territoires, s'être fait gaspiller tant de trésors, l'on s'avisait tout à coup qu'il y avait un moyen de parler, de discuter, de s'arranger. Quelle excuse aurait-on, à ses propres yeux, de ne pas s'en être aperçu plus tôt ? L'absurdité de l'entreprise deviendrait intolérable. Les dirigeants, en particulier, passeraient un trop mauvais quart d'heure. Et les gouvernements avaient une vision de crosse en l'air et de drapeau rouge, car il restait toujours que, pour une part, l'aventure de 14 résultait d'une option tacite que l'humanité occidentale avait faite entre la guerre et la révolution, plus claire et volontaire chez les classes dirigeantes. Ce n'est qu'au prix de la guerre, si lourd soit-il, et grâce au redressement de discipline et à la purge de passion qu'elle provoquera, que nous garderons l'arrangement actuel de la société.